Vous écoutez Repérage, des virées dans les lieux incontournables qui font Nanterre.
Bonjour à tous, vous êtes aujourd'hui dans l'épisode numéro 5 de Repérage et aujourd'hui le format est un peu spécial car il se passe en direct et en public dans la salle principale de la médiathèque Pierre et Marie Curie qui accueille un événement tout le week-end et même pendant une semaine, un festival dédié au manga sous toutes ses formes. Je l'avoue pour les auditeurs, je suis un novice en manga et ça tombe bien car le but de cette émission c'est peut-être de donner à voir et de donner aussi à entendre à tous qu'est-ce qu'un manga, quels sont ses secrets, quels sont les secrets de réussite aussi d'un manga. En d'autres termes, qu'est-ce qu'un bon manga? Et en tant que bon novice, j'ai accueilli autour de ma table des gens un peu plus experts que moi pour essayer de trouver les ingrédients d'un bon manga. Je vais vous présenter les invités du jour et je commence à ma gauche et cette fois-ci à la bonne par Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour à toutes et à tous.
Thomas, vous êtes bibliothécaire jeunesse de la médiathèque Pierre et Marie Curie. Disons que vous connaissez assez bien Nanterre, vous y avez travaillé de nombreuses années, notamment dans l'animation. Vous connaissez à Nanterre à peu près tout le monde, hein. C'est pas trop mentir de dire que votre réseau nanterrien est large. Et en tout cas, en termes de manga, on peut dire aussi que vous êtes un lecteur de manga. Et parmi les mangas incontournables qu'on vous a demandé de citer, je n'en citerai qu'un, je pense au Chevalier du Zodiaque. Je continue les présentations du jour avec deux demoiselles à ma gauche. Amina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes venue avec une amie, je crois, qui est un peu inséparable. On vous appelle parfois Tic et Tac, parfois Tac et Tic. Et la deuxième personne, c'est Maïssa. Maïssa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes toutes les deux des ferventes passionnées de manga, de culture BD en tout genre, de jeux vidéo également. Vous avez découvert l'univers manga, notamment dans le cadre du Club Ado où vous participez. Voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est réunis, qu'on vous a invités. On est ravis de vous recevoir. Je passe la parole à Noémie. Noémie, bonjour.
Bonjour Yanis.
Je vais vous donner le privilège de vous présenter vous-même, puisque c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. En tout cas, je vais juste dire quelques mots pour lui céder la parole et lui passer le flambeau. Noémie, elle est responsable numérique du réseau des médiathèques. Aujourd'hui, le tournage se passe dans la grande salle de la médiathèque Pierre et Marie Curie. Et je ne mentirai pas trop en disant que c'est un peu la maîtresse de maison. Elle rigole.
Alors oui, je rigole. C'est avant tout un gros travail d'équipe, justement, ce Nanterre Festival Manga. Je travaille pas mal dessus, mais donc il y a plein d'autres collègues qui, depuis déjà pas mal de mois, travaillent dessus. On avait à cœur de proposer ce projet, justement, pour tous les fans de manga, mais aussi pour les novices. Et voilà, après, est-ce que je dois parler un peu de mes goûts manga maintenant ou on y revient après?
Je pense qu'on y reviendra juste après, ouais. Mais on peut peut-être passer la parole à Quentin. Bonjour.
Bonjour, je suis enchanté d'être ici.
Nous aussi, on est enchantés de l'être et enchantés de vous avoir pour ce numéro de repérage. Quentin, vous êtes un grand geek de 20 ans, et je cite les mots. En tout cas, on peut dire que vous avez une culture geek assez développée, notamment sur tout le sujet des jeux vidéo, mais aussi sur le sujet des mangas qui nous réunit aujourd'hui. Si je devais citer un manga, peut-être pour donner à voir qui vous êtes à nos auditeurs qui ne vous voient pas, je dirais Jojo's Bizarre Adventure, par exemple.
C'est exact.
Très bien. Et je vous propose de commencer l'émission en écoutant un petit son d'archives qui nous a été collecté par Clément Veil, qui travaille également à la médiathèque. Ce son d'archives va peut-être nous permettre de poser un peu le débat du manga, parce qu'il y a une vraie tendance dans le manga qu'on peut observer, c'est peut-être sa popularisation, c'est-à-dire le fait qu'elle touche de plus en plus de monde. Écoutez.
L'univers du manga touche à tous les univers.
Très récemment, je me suis passionné pour un manga qui raconte le McCarthyisme dans le Hollywood des années 50.
Alors, je reprends la parole. Voilà un petit son de 9 secondes qui vous permet déjà de poser un peu le sujet. La grosse tendance, peut-être, pour commencer à parler manga, c'est que le sujet du manga, aussi bien dans la façon qui va se construire, c'est-à-dire de quoi il va parler, mais aussi quel public de lecteurs il va réussir à toucher. On a l'impression que le manga est un peu en train de détrôner peut-être le roman de magie, ou en tout cas les romans jeunesse qui ont eu l'habitude de passer entre toutes les mains. Est-ce que vous êtes d'accord, Amina et Maïssa, pour dire que le manga est en train de devenir un vrai sujet culturel pour les ados? Est-ce que le manga est de plus en plus stylé ou à la mode? Est-ce qu'on peut dire ça?
Oui.
Par exemple, parmi vos amis, est-ce que vous avez une large quantité de lecteurs de manga, ou est-ce que vous êtes un peu des ovnis toutes les deux?
Bah moi, j'ai des amis qui en lisent beaucoup, beaucoup de mangas, et qui en regardent. Après, je sais pas si c'est le cas d'Amina.
Non, moi j'ai pas trop d'amis qui lisent des mangas, à part ma sœur.
Peut-être qu'on peut demander au public, parce qu'on a la chance d'en avoir, parmi vous, qui lit du manga? Est-ce que vous pouvez dire moi, par exemple, parce qu'on ne voit pas vos mains levées? Ah ouais, donc on peut-être pour le public, on a un auditoire aujourd'hui d'une vingtaine, peut-être petite, ouais, 20, 25 personnes. Et parmi ces 20, 25 personnes, j'ai l'impression qu'on a eu quand même au moins 80% de réponses. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette estimation, Quentin?
Oui, c'est le cas, je pense.
Quentin, vous êtes un peu plus âgé que Amina et Maïssa. Vous avez quel âge, dites-nous?
14 ans.
14 ans?
14 ans.
14 ans également. Donc, on a deux jeunes dames de 14 ans et on a un jeune homme de 20 ans. Est-ce que vous, dans votre génération, vous aviez l'impression que cette culture manga était vraiment populaire, ou est-ce que ça l'est devenu?
Oui, elle était déjà très populaire et j'ai beaucoup d'amis qui lisent énormément de mangas, même à l'époque du collège où, oui, ça en lisait beaucoup en tout cas.
Et j'ai l'impression que peut-être une ou deux générations nous séparent quand même, car à l'époque, quand j'avais l'âge à peu près de l'auditoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être entre 7 et 15 ans, c'était plutôt rare de lire du manga. Il y avait comme une forme de rejet du manga, enfin comme si le manga c'était pas encore un genre à part entière, c'était pas de la lecture. Alors ça tombe bien, on a autour de la table deux professionnels du livre et des objets culturels, on va leur poser la question à eux. Est-ce que vous remarquez à la médiathèque Pierre et Marie Curie et ailleurs que le manga est en train de prendre plus de place?
Effectivement, le manga est devenu très populaire, autant que les bandes dessinées dites franco-belges. On doit ça surtout, je pense aussi, à la diffusion et à l'accès aux animés, aux versions animation qu'on peut retrouver sur certaines chaînes spécialisées ou sur maintenant sur Internet. Et donc du coup, en général, la première entrée en matière avec le manga, ça va être souvent un jeu vidéo ou une série télévisée. Et après, du coup, les gens se rendent compte que bah tiens, ça existait en format papier de base, c'était un manga. Donc du coup, c'est devenu un cercle un peu vertueux où maintenant c'est aussi le contraire. C'est d'abord des mangas adaptés en animé et aussi le contraire. Donc, c'est devenu hyper populaire. Avant, on parlait un petit peu d'une niche un peu spécialisée pour vraiment les otaku, comme on dit. Mais au final, c'est devenu très mainstream. Je crois que nous, les Français, on est les deuxièmes lecteurs de mangas au monde derrière le Japon. Donc, voilà, c'est vraiment considéré comme une culture à part entière. Et puis, une sous-culture ou une culture spécialisée d'experts et de professionnels.
Pour compléter ce que tu dis, justement, aujourd'hui, ce qui fait la force du manga, si on doit comparer avec, par exemple, les BD franco-belges, c'est vraiment, comme tu le dis, cette sphère qui se fait non pas sur un support, mais sur plusieurs. Le fait que aujourd'hui, quand on parle manga, on ne sait même plus parfois si on parle du support papier ou si on parle de l'anime. On parle aussi de la musique avec les openings, les endings. C'est toute une culture qui, en fait, donne vraiment un sujet à passion, puisqu'on va pas s'arrêter sur un support et on va adorer partager avec son entourage ou même avec des inconnus, justement pour dire, est-ce que t'as vu l'anime de ce livre que t'as lu, justement? Et au-delà de ça, il y a même aussi maintenant des cosplayers qui vont donc se déguiser comme leur héros préféré. Donc c'est aussi ça qui fait peut-être la force aujourd'hui du manga et cet engouement. Il y a aussi le fait que ça soit un support qui soit pas trop cher. Par exemple, en librairie, ça va être vraiment, pour l'instant, même si ça a un peu augmenté ces dernières années, mais ça reste un support accessible à tous. Ça aussi, ça peut être un élément important pour tout le monde.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander à quel âge avez-vous lu votre premier manga ?
Moi, j'ai dû commencer quand j'avais 11 ans.
Moi aussi, quand j'avais 11 ans.
D'accord.
Moi, 12 ans, je pense.
Moi, je pense que j'ai dû commencer par Dragon Ball, mais l'animé date déjà de 85. Je suis de 85, donc je dirais aller peut-être, ouais, 7, 8 ans. Parce que, comme disait Noémie, c'était les petits formats d'époque qui coûtaient pas très cher. Donc, le premier rapport manga-papier, moi, c'était Dragon Ball. Je dois avoir 6-8 ans, je dirais entre 6 et 8 ans.
Et moi, j'ai commencé par l'anime. Il y a aussi l'époque. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais le Club Dorothée, où justement, en fait, c'est là où, pour moi, le manga est né en France, où vraiment, on en a beaucoup entendu parler, mais donc en anime. Donc, pareil, j'ai commencé à regarder Dragon Ball à la télé. Mais vraiment, le livre, le manga en tant que tel, moi, j'y suis allée assez tardivement, mais après, je n'ai pas réussi à m'arrêter. Et je dirais que j'ai commencé vers 20 ans à peu près. Et un des tout premiers mangas qui m'a marqué, c'était pas forcément un manga connu, mais c'était Sensu. Voilà.
On prendra le temps dans la deuxième partie de l'émission de parler plutôt des œuvres, c'est-à-dire de voir avec vous quelles sont les œuvres incontournables dans l'univers du manga. Mais pour continuer et finir cette conversation autour de la découverte du manga, de l'âge de la découverte, j'ai envie de vous faire écouter un témoignage. C'est celui de Louis, mangaka au parcours assez peu commun puisque il en a fait son métier, mais il a découvert ce genre à 19 ans. Écoutez.
J'adorerais raconter une histoire, c'est un peu ambitieux, mais qui pourrait parler à tout le monde. Des histoires comme l'Odyssée d'Homère, l'Iliade, les contes qui restent avec l'humanité depuis des milliers d'années. Pour ceux qui connaissent les travaux de Joseph Campbell, qui est un mythologue et qui étudie les mythes, les légendes qui traversent l'humanité, peu importe le lieu ou la civilisation, et ben il parle d'histoires universelles. Et je pense que le manga, c'est une nouvelle façon de raconter qui est beaucoup plus moderne, mais je pense qu'on doit chercher dans les histoires quelles sont les choses qui vont résonner avec les humains en général.
Vous venez d'écouter le témoignage de Louis, mangaka qui a découvert à 19 ans cet univers et qui a finalement persévéré là-dedans au point d'en faire une profession. Ça permet peut-être d'arriver à une question centrale dans cette émission, mais qu'est-ce qui fait un bon manga ? Quels sont les ingrédients d'un bon manga ? Et si tant est qu'il y en ait au moins 5, je vais vous proposer chacun de donner un ingrédient d'un bon manga. Et si vous avez été à l'écoute, il y avait quand même des réponses dans ce que vous venez d'écouter. On va laisser la jeunesse commencer, peut-être. On leur donne l'avantage.
Moi, un bon manga, c'est ben, qu'il soit bien présenté avec des illustrations.
Ok. Des bonnes illustrations, un beau dessin. Quoi d'autre ?
Pour moi, c'est l'histoire en global, ce qui raconte dans le manga.
Plutôt donc le scénario, plutôt le j'ai envie de dire l'intrigue de l'histoire, d'accord ?
Moi, ça serait les personnages. Par exemple, pourquoi ils font ça, dans quelle situation ils se sont retrouvés à faire ça, et comment ils vont évoluer de ce qui leur arrive.
D'accord, donc c'est plutôt la complexité, on va dire, de l'histoire.
Oui, c'est ça.
D'accord.
Moi, je dirais des méchants stylés, l'importance des méchants, parce que les gentils, ça va. Mais les méchants, ça peut faire la différence entre un bon et un mauvais manga, même s'il n'y a pas de bon et de mauvais manga.
Noémie ?
Au-delà de ce que vous avez dit, pour moi, ce qui va faire qu'un manga, je le retiens, au-delà de tout, c'est quand il va jouer avec mes émotions. Quand je vais passer un peu par toutes les émotions, autant de la joie, de la frustration, de la colère, de l'incompréhension. Moi, quand j'ai tous ces éléments, quand je suis déstabilisée aussi justement dans mes émotions, c'est ce qui va faire qu'à la fin, je vais le retenir et que ça va faire partie de moi.
Et pour ma part, je dirais peut-être que dans la lecture d'un manga ou en tout cas dans la façon de consommer ce genre littéraire, il y a aussi le pas de côté que permet le dessin. Le manga, c'est avant tout du dessin. Donc ça peut s'apparenter à de la bande dessinée, ça peut s'apparenter à du roman graphique. En tout cas, il y a l'idée de mélanger le dessin et la prose et l'écriture. Et c'est vrai que derrière le dessin, il y a quelque chose de peut-être moins violent, peut-être quelque chose aussi de plus poétique. En tout cas, il y a quelque chose qui nous éloigne de la réalité qu'on vit au quotidien, c'est-à-dire une réalité d'image où on est tous greffés à notre téléphone et où on a une quantité d'images qui nous parviennent et que parfois on peut pas contrôler, soit dans la forme ni dans l'effet quoi. Ça, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, vous qui êtes des lecteurs de manga, est-ce que vous avez l'impression un peu de non pas quitter ce monde, mais en tout cas de s'éloigner un petit peu de ce monde-là le temps de la lecture?
Alors je dirais que pour moi c'est un peu une bulle justement comme tu le dis, ça nous permet autant de nous isoler que de se retrouver, enfin il y a un certain reflet aussi pour en tout cas pour moi quand je lis, où je vais certes m'identifier ou pas au personnage, mais justement où je vais être dans un autre monde qui parfois fait appel aussi au monde réel. Et j'aime bien justement faire l'entre-deux, c'est-à-dire autant m'isoler que revenir à la propre réalité en la voyant autrement par le biais du manga.
Je vous propose d'écouter un autre son d'archive, peut-être pour commencer à aller un peu plus loin dans qu'est-ce qu'est un bon manga, histoire de finir cette émission en sachant au moins quoi lire.
Le tronc commun à tous les lecteurs qui me parlent, c'est à quel moment ils ont été touchés personnellement dans leur histoire à eux par ce que j'écrivais. Peut-être que le fait d'écrire vraiment les trucs qui m'angoissent, les trucs qui m'amusent, les trucs qui me donnent espoir, peut-être que d'écrire tout ça de la manière la plus naïve possible, en fait, ça me permet de vite connecter avec les gens qui veulent partager ça aussi à la lecture. Et Radiante, c'est vraiment entre ce qui me fait kiffer le plus, ce que j'ai envie de voir, ce que j'aurais peut-être aimé lire, et la manière dont j'aurais aimé qu'on traite d'actualités qui m'inquiètent, par exemple, de choses comme ça.
Le pitch de Radiante pour un novice, c'est quoi?
Alors, Radiante, on est sur un shonen, donc on expliquera un petit peu ce que c'est, mais concrètement, c'est de la même famille que les mangas, que Dragon Ball ou Naruto. Donc, c'est l'histoire d'un jeune sorcier, un peu maladroit, mais très, très rigolo. Et il va lui arriver plein de choses. Il va découvrir des pouvoirs, découvrir des copains, vivre des aventures. Et c'est excellent. Et en plus, c'est français, messieurs, dames.
Cocorico.
Un peu de chauvinisme, ça ne fait pas de mal. Est-ce que vous avez lu Radiant, mademoiselle ?
Non. Non.
Non. Alors, c'est bien. Vous allez sortir au moins de cette émission avec des choses à découvrir et des envies de lecture. En tout cas, je crois que le phénomène Radiant, c'est un très gros, très, très gros phénomène de lecture manga en ce moment. Et que par ailleurs, comme tu le disais juste avant, Thomas, derrière ce manga, il y a aussi un genre, un sous-genre en tout cas du manga qu'on peut appeler le shonen. J'y connais pas grand-chose, mais j'ai quand même fait un peu de devoir de journaliste avant de venir ici, et j'ai en tout cas cru comprendre que le manga se divisait aussi beaucoup à la fois par objectif de lecture, c'est-à-dire par objet de lecture. Mm-hmm. Est-ce qu'on va lire est-ce qu'on a envie d'un manga violent, est-ce qu'on a envie d'un manga poétique, est-ce qu'on a envie d'un manga amoureux, mais par ailleurs il y a une double typologie parce qu'on rentre aussi dans le manga souvent par âge et donc par type de manga. Est-ce que c'est bien ça?
Oui, c'est le cas. Il y a des mangas pour adultes, il y a des mangas pour filles, il y a des mangas pour jeunes enfants, il y a des mangas pour adultes différents, etc.
À part le shonen, du coup, quel mot japonais on pourrait apprendre aujourd'hui pour parler de manga?
Alors, quand Quentin, tu parlais des mangas pour adultes, on peut parler de seinen. Pour les mangas féminins, quelqu'un peut le dire?
Les shoujo.
Voilà. Et après, ce qui est intéressant, donc en effet, il y a beaucoup de catégories par âge. Comme ça, ce qui est assez cool dans le manga, c'est que vraiment, il y en a pour tout le monde. Mais ce qui est encore plus cool, et ça, on l'a entendu tout à l'heure dans ton premier extrait, c'est qu'en fait, il y a tous les sujets qui peuvent être traités. Et ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable. C'est, on va avoir des sujets, mais vraiment, on va parler du handicap. Ça sera le premier sujet, comme par exemple Silent Voice, où on va avoir des sujets héroïques, comme l'attaque des titans, où on va avoir des sujets sur la cuisine, comme Food Wars. Enfin, bref, c'est ça aussi qui fait qu'il y a plein de catégories différentes entre âge et thématique.
Pour faciliter un petit peu la compréhension, ce qu'il faut se dire, c'est que le manga, concrètement, c'est de la BD japonaise, en fait. Donc, pendant très longtemps, on pensait que c'était que le même style de littérature, donc de la baston, des super-pouvoirs. Et comme disait Noémie, c'est que le manga est aussi diversifié que nos BD franco-belges, et comme sont les comics aux États-Unis. En fait, c'est juste la terminologie qui est différente selon les pays. C'est de la bande dessinée.
En tout cas, je trouve que là, on vient un peu déconstruire une idée reçue qu'on peut avoir quand on n'est pas lecteur de manga. C'est l'idée que rentrer dans cet univers est compliqué. Peut-être compliqué parce que déjà, c'est souvent en noir et blanc et qu'il faut l'avouer, on est dans un monde de couleurs et que parfois, on a du mal à quitter son petit confort. Ensuite aussi, peut-être parce qu'on a cette idée que c'est une langue totalement étrangère et que ça va se lire d'une façon, je crois déjà... complètement différente de la nôtre, parce que ça va se lire en images, ça va se lire dans un sens qui diffère, ça va se lire dans une façon de consommer l'objet livre qui est un peu différente. Et là, je suis content qu'on en arrive ici dans l'émission, parce que ça veut dire aussi que quelqu'un qui est totalement novice a peut pousser la porte de la médiathèque Pierre et Marie Curie et de lui-même, en ayant juste son âge, ce qu'il devrait savoir a priori, en ayant tout de suite des références à pouvoir découvrir et donc à avoir une facilité de rentrer dans cet univers littéraire. Je vous propose une petite interlude, le temps de vous mettre au défi de trouver de quel manga cette musique est issue. Demon Slayer, en deux mots, est-ce que quelqu'un a envie de parler de ce manga ?
Deux mots, hein, pas plus.
Bon, allez, cinq. Non, prenez le temps que vous voulez, vous en prie. Qu'est-ce qu'on peut dire de Demon Slayer ? Non, pas en deux mots.
Ben moi, j'ai beaucoup aimé ce manga, parce que les personnages, le personnage et l'histoire, bah, pour moi, elles étaient incroyables. Moi j'ai lu le manga et j'ai aussi vu la série et ça se rejoignait beaucoup et aussi sur le manga ça complétait des choses qu'il y avait pas dans la série et dans la série de même, donc moi ça m'a beaucoup plu et c'est tout.
Est-ce que vous voulez ajouter un mot pour nos auditeurs qui connaîtraient pas Demon Slayer et qui auraient envie de le découvrir?
Du coup, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui, en fait, à un moment, il va partir dans un village faire des choses, et quand il va revenir, en fait, toute sa famille va être morte, et sa sœur va être transformée en un démon, et en fait, son but à lui, c'est de la retransformer en humain. Donc par conséquent, il va faire plein de péripéties, affronter plein de personnes pour réussir à retransformer sa sœur.
On va peut-être faire un deuxième test. J'ai l'impression que le public est réactif à l'exercice. Alors attention, roulement de tambour. Est-ce que quelqu'un du public veut venir dire au micro venez par là. Alors Hunter, déjà dites-nous votre prénom, qui vous êtes et puis dites-nous.
Bonjour, moi je m'appelle Abdelrahman et j'ai 9 ans.
Ok. Et alors Hunter, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
On peut dire que c'est un manga qui est surtout avec plusieurs petites personnes.
Mmh.
Et
qu'est-ce qui s'y passe dans ce manga Hunter? Allez-y, aidez-le. Vas-y.
Bah, en gros, c'est un jeune garçon qui s'appelle Gon qui voudra voir son père. Du coup, bah, il va passer l'examen Hunter pour passer la licence. Et à ce moment-là, bah, il va rencontrer son ami, Kiroa. Et ils vont passer l'aventure ensemble pour trouver son père. Et du coup, à la fin, il va retrouver son père.
Super, merci beaucoup. Et on dit bravo quand même à Abdelrahman, hein, qui a osé venir au micro de Radio Agora pour exprimer son avis de lecteur. Allez, je propose un troisième test parce que jamais 203, hein, vous le savez bien. On a un jeune homme sur la gauche qui va venir aussi de nous dire quelques mots puisque ça a été le premier manifestement à trouver le manga.
Bonjour, je m'appelle Camille et Jojo's Bizarre Adventure, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Jonathan Joestar et qui vient d'une famille aisée en Angleterre. Et un beau jour, son père va adopter un enfant du nom de Dio, qui est en fait un enfant de son père alcoolique, et qui va vouloir se venger, et donc il va essayer de détruire Jonathan pour récupérer tout l'argent de son père.
Super, merci Camille, on l'applaudit. y a des talents manifestes de conteur chez Camille, j'ai l'impression. En tout cas, vous avez trouvé les trois mangas en attente record. J'avoue qu'on est un peu bluffé. Je vous propose maintenant de repartir sur une petite archive d'une mangaka qui va nous donner quelques conseils et que je vous propose d'écouter.
5 ans qu'on bosse dessus. En moyenne, c'est 7 ans de travail pour pouvoir créer et constituer une bonne base pour avant de le présenter dans des maisons d'édition.
7 ans, est-ce que ça vous paraît long pour produire un manga ?
Bah en fait, ça dépend. Parce que par exemple, au Japon, quand on entend parler de l'industrie du manga, 7 ans, c'est très long. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de mangaka qui doivent, semaine après semaine, écrire des chapitres de manga. Et donc, pour le coup, 7 ans, ça peut paraître très long. Mais après, si on parle d'une longue série, 7 ans pour, pour une 50aine de tomes, c'est pas si étonnant que ça, en fait.
Oui, 7 ans, qu'est-ce que c'est dans l'histoire d'une vie d'un mangaka ? Effectivement, il y a des œuvres qui sont énormes. Je pense à One Piece, ouais. Je pense à Berserk, je pense à Naruto, maintenant Boruto, Dragon Ball, qui sont quand même des séries longues. 7 ans, je pense qu'effectivement, ce que disait la personne qui intervenait, je pense que c'est une moyenne pour lancer un projet un peu costaud. C'est ce qu'elle disait, c'est à peu près 7 ans pour être sur un projet qui a une bonne forme pour être présenté sur des maisons d'édition. Après, maintenant, grâce aux nouvelles technologies d'information et de communication, ça peut aller plus vite avec Instagram et compagnie. Mais dans le processus créatif, ouais, 7 ans, ça paraît quelque chose de normal et de moyen maintenant.
Et ça nous amène peut-être à cette partie d'émission où on a envie un peu que vous nous livriez, que vous nous donniez, c'est peut-être plus joli, chacun, les coups de cœur manga qui figurent parmi le top de votre liste. Amina, quel manga figure en position, par exemple, 3-2-1
En position 3, j'ai choisi Blue Spring Ride. Après, en 2, j'ai choisi Seven Deadly Sins. Et en top 1, j'ai choisi Enter X Enter.
Merci. Les auditeurs ne le voient pas, mais on est sur une belle table ronde où on a disposé pas mal de mangas qui figurent parmi le catalogue de la médiathèque Pierre et Marie Curie. Et je pense qu'il y a pas mal de mangas cités qui finissent sur cette table et que vous pouvez ensuite, à l'issue de l'émission, venir découvrir avec plaisir. Qui d'autre ? Quentin, peut-être, votre top 3 en commençant par le bas ?
En top 3, Jojo's Bizarre Adventure. En top 2, Beastars. Et en première place, du coup, ça serait Senseiya.
Ok. Et pourquoi celui-ci en première place ?
Parce que c'est un manga qui m'a marqué. Mon père me l'avait fait découvrir à l'époque, puisqu'il avait toutes les versions, toute la série en DVD. Et par conséquent, après, quand je me suis lancé dans le manga, c'est l'un des premiers mangas que j'ai voulu lire. Malheureusement, vu qu'il est quand même assez vieux et compliqué à trouver, j'ai mis très longtemps à réussir à le terminer, mais j'ai réussi.
On vous félicite. À vous.
Top 3. Alors, Senseiya en 3. Je mettrai Naruto en 2 et en 1, je laisserai quand même Dragon Ball.
Alors, on lui demandera pas le numéro 1 parce qu'on sait que s'il a mis Dragon Ball Z en 1, c'est simplement qu'il est enfant des années 80-90. Mais on lui demande quand même pourquoi il a mis Naruto en 2.
Naruto en 2, pourquoi ? Parce que effectivement, Dragon Ball a trusté pendant des années la place de numéro 1 dans la catégorie shonen. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est que le shonen grâce à cette émission. Et on a vu, nous, les entre guillemets les vieux, voir arriver toute une mode et une hype autour de Naruto. Et on pensait pas que ça tiendrait dans le temps. Et on a tous été un peu surpris, car dans Naruto, ce qui est très intéressant, c'est tout le travail qui a été fait sur la mythologie japonaise, qui est d'une sacrée précision. Et les messages, moi, j'ai été étonné, parce que quand même, c'est un manga qui parle d'un garçon qui est quand même maudit, à la base, qui a pas beaucoup de copains, et qui, grâce à sa force de cœur, et de courage et d'amitié, arrive à être résilient. Et ça, moi, j'ai été assez surpris. Je pensais pas que ça tiendrait sur la longueur. Et c'est devenu, du coup, un de mes mangas préférés, parce que je trouve que, indépendamment du dessin, des méchants stylés, comme je disais tout à l'heure, il y a une profondeur de sentiments et d'émotions que j'ai pu expérimenter à travers Naruto. Donc, bravo Naruto.
Merci. Noémie ?
Oui, petit aparté, justement, pour tout ce qui est coup de cœur, on a fait une bibliographie avec tous les coups de cœur de 10 bibliothécaires. Et justement, vous allez retrouver beaucoup des titres dont on est en train de parler. Ça, c'est fini. Maintenant, pour le top 3. Alors, le troisième, c'est pas un manga très connu. C'est un seinen, donc un manga pour adultes. Ça s'appelle Les Liens du Sang. Vous l'avez là, ici, si vous voulez. Ensuite, en deuxième position, je mettrai Tokyo Kaido. C'est un manga en 3 tomes. Donc là, je sors des mangas qui sont en plein de tomes. Et par contre, en 1, je vais mettre SNK, donc l'attaque des titans.
Merci à tous d'avoir partagé ces coups de cœur. Je vous propose une petite interlude musicale. Venez d'écouter une musique issue de l'attaque des titans, qui fait d'ailleurs l'ouverture, je crois, du manga. Et on va même laisser la parole à Quentin, qui va nous dire le titre de l'œuvre en japonais, car il le sait. Et ensuite, il va nous dire quelques mots sur l'attaque des titans. Je crois que c'est incontournable qu'on en parle rapidement aujourd'hui.
Du coup, l'anime en japonais, le manga en japonais s'appelle Shingeki no Kyojin. C'est pour ça que la plupart des adolescents, adultes, etc., l'appellent SNK, pour juste faire plus court. Et le nom de l'opening, c'était Guren no Yomiya.
Waouh, c'est beau. Et l'attaque des titans, c'est quoi ?
Alors, l'attaque des titans, pour faire court, c'est en gros l'humanité qui est emprisonnée par des murs. On se retrouve directement donc entre ces murs. On va suivre un groupe de 3 amis, dont le héros principal est Eren. Et on sait une seule chose, c'est qu'ils sont menacés par une force extérieure, donc des titans. Ça, c'est le début. Et après, je n'irai pas trop loin pour ne pas spoiler quoi que ce soit de toute cette épopée.
Et c'est déjà pas mal, merci beaucoup. En tout cas, c'est sûr que l'attaque des titans connaît un succès titanesque parmi les lecteurs de mangas. Mais d'ailleurs, pourquoi ces mangas ont-ils du succès ? Est-ce que le manga est une recette marketing ? Autrement dit, est-ce que vous êtes les produits d'une industrie qui sait très bien gérer son affaire et qui sait créer des mastodontes ? Je vous propose une petite écoute.
Les concepts, les idées fortes qui feront que ton œuvre va résonner, aura un écho auprès du public. Qu'est-ce qui fera qu'une œuvre va avoir plus de succès qu'une autre auprès du public ?
Le point de départ de l'histoire repose sur un thème vieux comme Hérode et suffisamment universel pour parler au plus grand nombre, une histoire de vengeance, auquel se rattache un thème tout aussi universel, le deuil et la perte de ceux qu'on aime. Les personnages ont tous des designs très originaux avec des codes couleurs très reconnaissables. Le concept des pouvoirs et des différentes organisations sont eux aussi ultra simples à comprendre.
Demon Slayer, ça arrive à te servir des combats neketsuesques dantesques tout en parallèle à parvenir à te proposer des trucs basés très sur l'émotionnel, sur les relations entre les personnages. C'est-à-dire qu'on arrive à choper un lectorat à la fois plutôt masculin et un électorat plutôt féminin. Selon moi, il n'y a pas de grand succès sans concept impactant, fort et simple à comprendre, et facilement compréhensible. Et ça, on s'en fout que ce soit original ou non, ça ne rentre presque pas en compte. Les mythes les plus persistants sont ceux qui répondent le plus à nos doutes, nos aspirations, nos peurs, nos questionnements, etc., etc.
Qu'est-ce que vous avez compris de ces différents extraits, messieurs, dames ?
La recette, effectivement, qui fonctionne souvent, c'est... Noémie en a parlé tout à l'heure, c'est quand même sur des émotions. Et Moi, je parlais tout à l'heure de Naruto, la notion de fraternité, les liens du sang, le lien avec la famille de sang, après, du coup, la famille élargie. Donc, ça ramène effectivement à des émotions qu'on a envie de dire un peu primaires, l'amour, la haine. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et effectivement, être original, au final, c'est même pas forcément l'objectif. Et c'est souvent, effectivement, sur des choses assez basiques, simples.
Une des recettes, justement, aussi par rapport à ça, c'est le fait, par exemple, que les mangas aussi, ils ont une certaine force. C'est aussi par la durée. Parce que on a le temps d'apprécier à comprendre chaque personnage, que ça soit des héros ou des antagonistes. On a le temps de s'identifier à eux ou de penser qu'un ami peut ressembler à tel personnage. Il y a tout le lore, donc tout l'univers aussi qui va avec, qui fait que, le fait qu'il y ait des grandes séries comme ça, en fait, au bout d'un moment, ça fait partie de nous. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui est très fort et qui fait que quand on ferme le manga ou quand on finit un anime, il y a un peu un manque qui s'installe en nous parce qu'on se dit, mince, c'est fini, mais sauf que moi, je le connais par cœur, Eren, par exemple, dans l'Attaque des Titans, etc. C'est quelque chose qui est très fort. Et donc, les émotions, ça fonctionne beaucoup là-dessus, justement, et les mangaka, ils jouent pas mal avec nos émotions.
Je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la mort de certains personnages sur lesquels on s'attache. Effectivement, c'est des choses qu'on a pu expérimenter aussi sur le format série télévisée aussi. Et donc, du coup, je pense même que peut-être qu'on aurait piqué ça des mangas. C'est quelque ce côté épisodique. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, si on fait tuer tel personnage sur que le public s'est approprié, ça va créer une caisse de résonance parce qu'on sait que ça fait écho et on est plusieurs fans à rager sur la disparition d'un ou personnage parce qu'on s'y est attaché. Donc c'est ça qui est bien vu aussi dans les mangas.
Est-ce que vous avez grandi avec des personnages comme ça de manga, Quentin, qui vous ont suivi et qui ont un beau jour disparu de votre vie avec drame? Évidemment, je mets de l'emphase, mais je plaisante. On sait que c'est pas non plus la perte d'une personne réelle, mais est-ce que vous avez vraiment le sentiment qu'il y a des mangas qui vous ont suivi dans votre vie et qui ont du coup quelque part pris une place presque réelle, si bien qu'au bout d'un moment, ces mangas-là, dans la durée, et vu qu'on est beaucoup à les lire, ça devient des mythes.
Par exemple, du coup, il y a Senseiya qui, au final, j'ai connu ça très jeune et après, ça m'a suivi toute ma vie. Ça a été l'un des objectifs que je me suis fixé et au final, quand je l'ai réussi, j'étais très content. Mais aussi, j'étais un peu triste du fait que c'était terminé, que tout ce que j'avais fait, au final, j'avais réussi à l'avoir.
En effet, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent la recette du manga, ou en tout cas sa réussite. Il y a déjà le fait que le manga a instauré une dynamique de série, et cette dynamique, elle permet à la fois d'avoir beaucoup de tomes à découvrir, et donc de devenir quelque part un lecteur fidèle d'un univers. Et puis j'ai l'impression qu'il y a un autre ingrédient qui est plus un ingrédient, on va dire, littéraire, qui est plus quelque chose que vous serez amené à découvrir dans vos cours de français plutôt que dans vos cours de marketing. Mais c'est l'idée que le manga est très souvent initiatique. Alors, est-ce que ça vous parle la notion de roman d'initiation, par exemple, le public? Est-ce qu'on vous a déjà parlé de roman d'initiation? Je pense pas encore, c'est peut-être un peu tôt. En tout cas, il y a un parallèle, c'est-à-dire on peut rapprocher le manga de la littérature plus classique et par exemple d'un mythe de la littérature classique qui est l'Iliade d'Homère, parce que dans ce type de roman qu'on appelle initiatique, on va découvrir un personnage très souvent jeune, très souvent assez proche de vous par l'âge, parce qu'il a entre, je sais pas, 6, 8, 10 ans, en tout cas c'est un jeune personnage, et le but de ce roman, c'est de suivre ce personnage dans sa vie, dans son évolution, et de le voir grandir, de voir comment il évolue, qu'est-ce qui change dans sa personnalité, qu'est-ce qui change aussi dans le monde qu'il habite. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet assez facilement de nous identifier au personnage. Et donc, dans ces romans initiatiques, c'est souvent aussi des grandes épopées, il se passe beaucoup de choses, ils ont des grandes vies avec des grands moments de joie, des grands moments de détresse, mais quelque part, ils ont quelque chose d'humain, parce qu'ils ont une vie qui est jalonnée d'obstacles, et notre vie à nous aussi, c'est quelque part un chemin. Notre vie, c'est un chemin, et puis c'est un chemin avec plein d'aventures, plein d'obstacles parfois, puis comme une sorte de météo qui fluctue. Est-ce que vous êtes d'accord de rapprocher l'univers manga d'Homère aujourd'hui? C'est un grand pas de côté.
Non, moi qui aime aussi la, tout ce qui touche un peu à la Grèce antique et aussi à la mythologie. Tout à l'heure, on parlait de Saint Seiya et aussi un rappel à la mythologie. L'Iliade, l'Odyssée, bah effectivement, c'est ce que vivent les personnages de manga. On reparle encore du shonen, mais c'est le principe en fait d'un petit garçon ou d'une petite fille qui va commencer avec un niveau assez classique et qui va rencontrer des gens, des amis, des ennemis, des obstacles, le faire grandir ou la faire grandir. Et c'est complètement ça. Et tu parlais de voyage initiatique, et mais c'est pour moi c'est juste un parallèle culturel. C'en est un, c'est sauf version on va dire asiatique et japonisant, mais c'est exactement le même procédé.
Et j'ajouterais, moi, je mettrais une nuance. Ça veut dire que oui, il y a des mangas où on est vraiment sur le roman initiatique, vraiment avec l'épopée, etc. Surtout, bah, les shonen, ils sont vraiment connus pour cette trame littéraire qu'on retrouve à chaque fois. Par contre, je trouverais que ça serait limitatif de dire que le manga, c'est ce style et c'est tout. Parce que, par exemple, si je reprends les deux mangas dont j'ai parlé tout à l'heure, dont par exemple Tokyo Kaido ou d'autres, ce sont par exemple des mangas qu'on qualifie de tranches de vie, et justement là on est sur quelque chose de beaucoup plus humain où on parle du quotidien des personnages, et c'est ça aussi qui fait le manga, c'est qu'on n'est pas que sur le côté héroïque. Voilà, pour moi il y a une complémentarité et une diversité dans le manga qui est aussi à souligner.
C'est vrai, il y a beaucoup de styles, on en a parlé en début d'émission, il y a donc le shoujo qui va plutôt cibler les publics féminins, on a aussi des mangas, on va dire, plus matures qui se destinent plutôt à un public adulte, on n'arrête pas forcément de lire du manga, on a le seinen, je sais pas si je le dis correctement, est-ce que vous voulez peut-être dire un peu ce que c'est que le shonen, le présenter?
Alors effectivement, comme tu disais Yanis, le seinen, c'est on est sur des œuvres matures, donc avec des contenus explicites en termes de violence, de rapports humains, de sexe et compagnie. Mais pareil, dans plein de temporalités différentes. Moi, je parlais dans mes favoris de Berserk, qu'est-ce qu'on appelle de la dark fantasy. Mais donc du coup, là concrètement, ça y va. Donc en termes de violence, de langage, enfin voilà, c'est vraiment une catégorie du manga, le seinen, pour public du coup averti.
Et j'ajouterais même que par ailleurs, il y a dans ce style, de ce sous-genre de manga, il y a évidemment le fait que ça se destine à un public plus adulte, avec un filtre qui est un peu moins, on va dire, dense sur la réalité. Mais il y a aussi une forme peut-être de science-fiction qu'on peut retrouver dans ces œuvres-là. En tout cas, il y a ou presque de dystopie, voilà, pour parler d'un genre littéraire. On peut parler de George Orwell. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez vite connaître. En tout cas, la Ferme des animaux, par exemple, ce genre de roman où on fait complètement un pas de côté avec la réalité, où les humains deviennent la cible des animaux de la ferme, par exemple, pour dénoncer l'oppression que l'homme peut faire sur son environnement. De la même façon, on va aussi trouver dans la richesse du genre manga des œuvres qui sont plus dystopiques, qui vont donc avoir un point de vue sur la réalité peut-être un peu plus fort, et en tout cas qui vont donner le regard du mangaka sur la société réelle et non pas sur quelque chose de totalement fictif. Est-ce que parmi la table, il y a des gens qui ou parmi le public, hein, des gens qui peuvent nous conseiller un seinen ou en tout cas un livre plus adulte dans le manga qui pourrait nous permettre de commencer si on aime la dystopie, si on aime tout ça? Alors on a des jeunes gens qui lisent des seinen, c'est très inquiétant. Allez-y, mademoiselle, venez. Vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer le seinen de votre choix.
Bonjour, je m'appelle Estelle, j'ai 12 ans. Moi j'ai commencé par le seinen Les Carnets de l'Apothicaire. C'était un seinen vraiment que... Au début, je ne savais pas tout que c'était un seinen, mais je trouve que c'est pas si adulte que ça, finalement.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire de ce manga en deux mots?
C'est une jeune fille qui travaille à la cour impériale chinoise, qui est goûteuse, et elle est apothicaire, et elle a été capturée d'une sorte ou d'une autre, et elle travaille là-bas.
D'accord. Et est-ce que, par exemple, tu arrives à voir un rapprochement, on va dire, à faire entre l'histoire et notre monde à nous? Cette histoire-là et notre monde à nous, est-ce qu'il y a des liens
Bah, c'est un peu, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais elle a été un peu prise, et après, enfin, elle a été kidnappée un peu, et après, comme une esclave, un petit peu.
On parle d'oppression, du coup, on parle de tous ces sujets-là, d'oppression, d'esclavage.
Bah, pas vraiment, elle est pas maltraitée, mais elle a été un peu kidnappée.
D'accord. Merci beaucoup, on t'applaudit. Je vous propose une dernière interlude musicale. Ensuite, on demandera à nos invités de s'identifier à un personnage manga. Et puis, on pourra se dire au revoir. En tout cas, on passe un très bon moment ici à la médiathèque. Pierre et Marie Curie. Des chevaliers du Zodiac et on rentre tout de suite dans les portraits chinois ou plutôt dans les portraits manga et on commence avec vous si vous le voulez bien Amina. Amina, si vous étiez un personnage féminin de manga, qui seriez-vous?
Elisabeth dans Seven Deadly Sins.
Pourquoi? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce personnage que vous aimez bien?
Son caractère, enfin elle est douce et gentille
C'est pas évident l'exercice parce qu'on a on a vos copines qui sont en train de vous mettre un petit peu mal à l'aise. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est déjà bien d'aspirer à être doux et gentil dans la vie et je pense que vous l'êtes. Ensuite, si vous étiez par exemple un animal issu d'un manga, là c'est quand même plus, enfin ça m'a l'air plus compliqué à répondre à cette question. On va plutôt dire si tu étais un personnage masculin, qui serais-tu, Maïssa?
Je serais plus Killua.
De quel manga?
De Hunter x Hunter.
D'accord. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'on aime chez lui?
Bah moi j'aime bien sa façon de réfléchir, de penser ou d'agir, ce qu'il fait ou enfin comment il parle. Pour son âge il est mature.
Merci beaucoup Maïssa. Je me retourne maintenant vers Thomas. Je crois qu'on n'a pas oublié en début d'émission qu'il a dit qu'il adorait les méchants et que les gentils c'était fini. Donc on va lui dire quel méchant rêvez-vous d'être quand vous êtes dans vos livres?
Alors, les méchants, c'est intéressant dans les mangas. De là, être un vrai méchant, vrai, non. Non, merci. Mais si jamais tu me dis méchant, moi, je pense à Freezer, quand même, dans Dragon Ball. Parce que nous, dans le Club Dorothée, quand même, c'est un sacré premier méchant. Rappelez-vous, ceux qui ont moins de 30 ans peuvent pas forcément connaître cette référence. Mais voilà, Freezer, c'était un vrai premier gros méchant dans le monde des méchants, quand même. Hein. Je pense qu'il y a débat, mais... Je vous rappelle qu'il a tué quand même Krillin, et c'est à cause de ça que Son Goku se transforme pour la première fois.
Merci beaucoup. Noémie, si vous étiez un animé, carrément, un univers, quoi.
Alors, si j'étais un anime, ça serait FMA, donc Full Metal Alchemist. Voilà.
D'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut rapprocher de vous, peut-être, dans ce manga, ou qu'est-ce qui vous intéresse dans cet univers particulièrement?
Ça serait simple de répondre tout, mais en gros, pour moi, c'est tout l'univers qui me plaît. L'intrigue me touche énormément. Les héros, pour moi, sont importants, mais tous les personnages qui sont autour d'eux, pour moi, me touchent autant que les héros principaux. la quête des héros, pour moi, elle est autant personnelle que collective. Donc, résultat, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement humain dans leur recherche. Je spoil pas, donc c'est pour ça que je vais pas aller au-delà. Après, il y a quelque chose aussi qui me touche énormément, ce sont les méchants qui sont dedans, donc les homonculus, et je pense par exemple à Scar, qui pour moi, là où ça devient des... Vraiment, pour moi, c'est dans le manga quelque chose d'extrêmement important, c'est quand les méchants ne sont pas finalement si méchants que ça, et en fait, où on a toute la psychologie des méchants pour finalement s'attacher énormément à eux, et finalement en faire presque devenir des héros à part entière. Après, il y a toute la musique de l'anime que j'adore, les personnages, l'univers graphique, tout. Voilà.
Et donc, si vous étiez une méchante, pas si méchante héroïne d'un manga réel ou fictif, quel serait votre pouvoir, ou alors de quel pouvoir vous pouvez nous parler qu'on arrive à retrouver dans un manga que vous appréciez ?
Alors, je vais tricher. Mais je vais pas dire méchante, parce qu'en fait, j'en ai un en fond de moi que j'ai obligé de redire. Pour moi, le méchant que j'aimerais être, ça serait Scar, justement, d'FMA, parce que son personnage me touche tout particulièrement, sa force, son pouvoir aussi. Il a un pouvoir, évidemment, donc surhumain, que lui-même a du mal à contrôler tellement c'est fort. Et après, le pouvoir, justement, en tant que tel, qui me plairait, c'est le sien, mais c'est dans FMA, ça veut dire justement l'alchimie. Et rien que pour ça, l'échange du Toka-Koka et tout ça, moi, je suis à fond dedans. Ouais.
Quentin, s'il fallait choisir un personnage féminin et s'identifier à ce personnage, lequel serait-ce ?
Le problème, c'est que j'ai vraiment pas beaucoup de personnages féminins en tête.
Mais même dans les mangas, dans les autres mangas que vous nous avez cités avant, un peu plus tôt.
Oui, j'en ai, mais le problème, c'est que je m'en identifie à aucune d'entre elles, en fait.
D'accord, et alors est-ce qu'on peut imaginer un personnage féminin qui serait plus attrayant dans votre imaginaire qu'un autre, qui aurait un rôle qui vous a marqué dans une histoire?
Je sais que Juno dans Beastars m'avait beaucoup marqué quand elle était arrivée dans le manga, je l'avais beaucoup aimée, et j'aimais beaucoup son caractère, ce qu'elle voulait faire, etc.
Et son caractère, il est comment?
Elle était déterminée à voir ce qu'elle voulait. Elle voulait devenir la Beastars, qui est du coup le poste le plus haut de, enfin, un des, ce qui, enfin, c'est un peu l'élite de leur école. Et du coup, elle voulait absolument devenir. Et elle a immédiatement posé les bases. Elle a confronté celui qui était sur le point de devenir Beastars. Et du coup, j'avais beaucoup aimé son personnage à cause de ça.
Je crois qu'on a les oreilles pleines de beaucoup de mangas, de beaucoup d'animes. Je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses ensemble. On a presque trouvé la recette d'un bon manga. On a compris que ce genre littéraire était plein de surprises, que derrière les mangas existaient des mangas et qu'en réalité, il y avait un manga pour tout le monde, pour tous les âges, pour tous les genres. Je remercie en tout cas tous les invités du jour d'avoir permis de réaliser cette émission, de s'être prêté au jeu d'une émission en public, et c'est pas évident, donc déjà bravo à vous. Je remercie Quentin à ma droite, dont les mangas incontournables sont Beastars, Jojo's Bizarre Adventure, mais aussi les Chevaliers du Zodiac. Je remercie également Amina et Maïssa à ma gauche, je m'excuse, avec comme incontournable Hunter x Hunter, mais pas que, il y a aussi Demon Slayer, Seven Deadly Sins et Blue Spring Ride. Je remercie à ma gauche, et cette fois-ci la bonne, le bibliothécaire jeunesse de cette médiathèque, qui a choisi aussi les Chevaliers du Zodiac, pas très original, mais également Berserk et Naruto. Sur ma droite, enfin, je remercie Noémie, qui est responsable numérique du réseau des médiathèques et dont les coups de cœur principaux seraient l'attaque des titans encore, Tokyo Kaido et les liens du sang, un peu d'originalité. Et ensuite, à ma droite, j'ai déjà dit tout le monde, j'ai l'impression, l'occasion pour moi de clore cette émission et de vous dire à tous un grand merci pour votre attention.